se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
RMC
6h30. RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise Danjon. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trafic perturbé dans les airs, mais pagaille limitée pour le moment dans les aéroports. Un accord a été trouvé avec les contrôleurs aériens qui ont levé leur préavis de grève. On sera en direct d'Orly dès le début de ce journal. Un troisième adolescent mis en examen et placé en détention provisoire après la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Et puis Richard Gasquet qui va disputer le 1000e match de sa carrière, record de longévité pour le tennisman français.
Jeudi noir pour le transport aérien français.
Malgré la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens et l'accord trouvé en dernière minute hier, un accord gagnant-gagnant, salue le ministre des Transports, mais il y a tout de même de grands perdants, les usagers qui vont devoir faire face à de fortes perturbations car c'était trop tard pour rétablir les milliers de vols supprimés. Bilan des courses, 55% d'annulation à Roissy-Charles de Gaulle, 65% à Marseille et à Paris-Orly où l'on retrouve ce matin Clara Gabillet en direct pour RMC. Eh bien, 3 vols sur 4 sont supprimés. Mais paradoxalement, ça n'est pas trop la pagaille sur place, Clara.
Non, car les passagers qui sont là ce matin ont eu la chance d'être prévenus à temps et donc réussi à s'organiser tant bien que mal, hein, comme cette passagère qui a dû changer d'aéroport. Elle devait partir de celui de Charleroi à Bruxelles, mais elle a dû trouver un nouveau vol depuis Orly. Il a donc fallu se lever bien plus tôt pour qu'un ami l'emmène en voiture ce matin de Lille à Paris. D'autres chanceux ont aussi pu être reprogrammés sur un vol du même jour, comme Gisèle, qui devait partir ce soir et a trouvé un vol ce matin.
Il faut que je rentre sur Toulouse impérativement. Il y a un examen médical à passer vendredi. Ils m'ont rappelé hier soir pour me proposer un vol ce matin à 7h. Ça a occasionné beaucoup de difficultés, mais bon, j'ai trouvé une solution. En tout cas, la France a trouvé une solution et tant mieux.
Un aéroport quand même bien plus vide hein, que d'habitude et des panneaux d'affichage bien moins remplis, puisque donc les 3/4 des vols ont été annulés ici.
Clara Gabillet en direct de l'aéroport d'Orly pour RMC. Il est 6h32 du nouveau dans l'affaire Philippe Kopmann, ce jeune homme tué en pleine rue à Grande-Synthe dans le Nord, inhumé hier. Le troisième adolescent arrêté dimanche a lui aussi été mis en examen pour assassinat et incarcéré. Il rejoint en détention provisoire les deux autres suspects dont son cousin, car les enquêteurs Guillaume Bien ont retrouvé des indices très compromettants.
Oui, d'après nos informations en garde à vue, cet adolescent de 15 ans a d'abord nié son implication, mais l'analyse de son téléphone a parlé pour lui. Dans son portable, les enquêteurs ont découvert une vidéo tournée le soir de l'agression. On y voit cet ado à visage découvert frapper la victime. Il est alors en compagnie de son cousin de 14 ans et d'un autre garçon de 15 ans, tous les deux déjà mis en examen et écroués. Alors, confronté à cet enregistrement, le jeune suspect a avoué à minima sa participation, assurant que Philippe Kopmann était déjà à terre quand il a rejoint les deux premiers agresseurs. Comme eux, il a donc été présenté au juge en charge de cette affaire, qui l'a mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Il a lui aussi été placé en détention provisoire.
Un mineur de 16 ans en garde à vue après son interpellation hier en Haute-Savoie. L'adolescent projetait un attentat suicide à la Défense à Paris pendant les Jeux Olympiques. Une lettre d'allégeance à l'État islamique a été retrouvée à son domicile. On y revient dans le journal de 7h. Il est 6h34, on en sait plus ce matin sur l'avenir de Casino et le nombre de postes qui pourraient être supprimés. 1300 à 3200 emplois menacés. Le groupe surendetté est en pleine réorganisation. Au siège historique de Saint-Étienne, ce sont 550 salariés qui vont se retrouver sur le carreau. Alors forcément, la nouvelle est dure à encaisser. Reportage sur place avec Vincent Chevalier pour RMC.
Au minimum, 1300 postes seront supprimés dans les différents sièges du groupe. Situation difficile à gérer pour les salariés.
Ça peut être compliqué. Hein. Derrière, il y a des enfants. Voilà, on attend les informations avec impatience parce qu'on trouve ça long.
Effectivement, pour l'instant, les travailleurs ne savent pas qui reste et qui part. Ses deux collègues ont donc anticipé et déjà refait leur CV.
Moi, le mien est remis à jour, mais voilà, c'est ça.
Il est remis à jour régulièrement. On n'a pas attendu la situation pour mettre à jour. C'est
ça. La promesse du groupe est de se réorganiser pour survivre. Alors, certains veulent y croire, comme Hervé, salarié d'EasyDis, la filiale logistique de Casino.
J'y suis très attaché, je suis stéphanois et je suis né à quelques mètres du siège.
La direction dit avoir tout fait pour préserver réserver ce siège. Pilule difficile à avaler pour Hervé, délégué syndical CFE-CGC.
Quand il y a des suppressions de postes, quelles qu'elles soient, qu'il y en ait 1000 ou qu'il y en ait 3000, c'est toujours trop.
Il faut surtout espérer une solution pour les magasins et plateformes logistiques qui n'ont pas encore trouvé preneur.
Si d'ici le mois de septembre, ces magasins ou ces plateformes n'ont pas trouvé l'ensemble des salariés qui composent ces entités-là, feront aussi partie du PS.
Dans ce scénario du pire, plus de 3200 personnes perdraient leur emploi.
Une autre entreprise en grande difficulté, la célèbre verrerie Duralex, qui a été placée hier en redressement judiciaire pour la deuxième fois en 3 ans. Le tribunal espère trouver un repreneur pour l'entreprise qui emploie 230 salariés. Nouvelle audience fixée au 5 juin.
RMC 6h35, le tennis.
Et Gaël Monfils, sorti dès le premier tour du Masters 1000 de Madrid par l'Italien Luciano Darderi. Un autre Français, lui, va disputer le 1000e match de sa carrière aujourd'hui. C'est Richard Gasquet, phénomène de longévité. Le Biterrois de 37 ans a entamé son voyage en 2002 et on peut dire, Eric Salio, qu'il repousse ses limites.
Oui, ils sont une quinzaine de champions à avoir atteint ce cap, mais pas Murray, ni Becker ou Wilander, c'est dire la valeur de la statistique. C'est évidemment le premier Français à 4 chiffres, mais est-ce si surprenant quand on se souvient du môme de 15 ans et 10 mois qui remportait son premier match sur le circuit à Monte Carlo? C'était en 2002, Patrice Dominguez, alors directeur du tournoi monégasque, avait perçu un talent précoce chez le jeune Biterrois en lui offrant une invitation pour les qualifications. 22 ans plus tard, même s'il a quitté le top 100, Richard Gasquet est toujours animé par la même flamme, la même passion. Dans un mois, il disputera son 21e Roland-Garros, accessoirement son 73e Grand Chelem. L'empreinte est magnifique.
Et puis Raphaël Nadal, incertain pour Roland-Garros. Si j'arrive à Paris comme je me sens aujourd'hui, je ne jouerai pas, a déclaré l'Espagnol hier en conférence de presse. En football, le PSG devra encore attendre ce week-end pour espérer être sacré champion de France. Les Parisiens ont battu Lorient 4-1 hier soir grâce au doublé d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais Monaco a aussi gagné 1-0 face à Lille et conforte sa deuxième place. De son côté, Marseille fait match nul de partout contre Nice et stagne à la 8e place.
Et puis le Quintet, c'est à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Giraffe. Son outsider, c'est le numéro 10, Dipsy. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Giraffe, c'est simple, quoi.
Ouais,
c'est vrai,
ça que c'est rare. Giraffe en eau profonde. C'est,
c'est son vrai nom.
À retenir. Je ne sais pas.
6h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Est-ce que trop de touristes tuent le tourisme? La ville de Venise fait payer désormais 5 euros l'entrée dans la ville. C'est à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait faire pareil en France pour éviter qu'il y ait trop de monde au même endroit? Vous travaillez dans le secteur du tourisme, vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier. Venez nous dire ce matin ce que vous en pensez, quel impact ça aurait sur votre activité. Et puis, est-ce que d'ailleurs pour vos prochaines vacances, vous allez tenter d'éviter ces lieux hyper touristiques? Est-ce que vous comprenez la décision de Venise? C'est à vous de nous dire dans un instant sur RMC.
RMC, Police Justice.
Mais c'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service Police Justice d'RMC. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'arrestation d'un gang de pilleurs de cimetières qui aurait volé des centaines d'ornements en bronze.
Oui, des statuettes, des croix, des bénitiers, tout ce qui pouvait être en bronze et donc avoir de la valeur au prix du métal. D'après les gendarmes, plus de 300 vols de ce type auraient été commis par la même bande ces derniers mois dans une quarantaine de cimetières de l'Est de la France, dans le Haut-Rhin, les Vosges, le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Des vols sur les tombes, choquant évidemment pour les familles des défunts. 270 plaintes ont été déposées. Le préjudice financier s'élève à 175 000 euros. Alors, c'est la nuit que les suspects passaient à l'acte. Après avoir fait des repérages en journée, ils revenaient dans des cimetières isolés, dérobaient les ornements et ensuite ils allaient les revendre en Allemagne auprès de ferrailleurs peu scrupuleux. Il a fallu une longue enquête des gendarmes pour identifier les suspects et rassembler suffisamment d'indices. Au final, 4 personnes ont été interpellées, membres de la même famille. Un père d'une soixantaine d'années, ses 2 fils et une compagne. 4 ressortissants roumains, jusqu'ici inconnus des services de police. En garde à vue, ils ont partiellement reconnu les faits, sans pour autant exprimer de regrets. En attendant leur procès, ils ont tous les 4 été mis en examen et 3 d'entre eux sont depuis en détention provisoire.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h41, merci d'avoir choisi RMC.
À vous de nous dire.
À vous de nous dire si trop de touristes tuent le tourisme. Venise a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il faudrait payer 5 euros l'entrée dans la ville pour tous ceux qui sont de passage. Alors attention, ça ne s'appliquera pas à ceux qui viennent séjourner dans la ville, c'est ceux qui viennent passer la journée. Et puis il y a d'autres villes de France et d'Europe qui ont mis des quotas, des jauges pour tenter d'éviter l'overdose sur les plages ou dans les rues. Vous vous souvenez, l'an dernier, on avait parlé de cette décision, notamment des calanques de Marseille, de restreindre considérablement l'arrivée. Vous en avez parlé d'ailleurs ce matin, à 6h10, Martin.
Exactement, il y avait Vangelis Panayiotis, un expert du tourisme qui a répondu à nos questions, et il expliquait que finalement c'est pas forcément la solution la plus efficace pour lutter contre le surtourisme. Il y a plein de solutions. Le tourisme est en train de se renouveler. On veut limiter évidemment le surtourisme et de se balader dans des rues ultra serrées les uns sur les autres parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais que mettre des taxes financières à 5 euros, c'est pas forcément ça le plus incitatif, qu'il faut peut-être mettre plus de jauges, de choses comme ça.
Et d'ailleurs, on sent bien, au fond, si l'objectif était vraiment de réduire le nombre de touristes, il montrait le niveau. Ce serait pas 5 euros. Là, c'est pas une raison économique. On est d'accord, Manu, non?
Bah, non. Non, mais le problème, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté sur l'objectif.
Ou alors, c'est une raison. Ou alors, pardon, je me suis mal exprimé. C'est précisément pour gagner un peu plus de sous,
oui.
mais pour empêcher les touristes d'arriver.
À Venise, il y a un petit côté où on veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. On veut éviter un petit peu le nombre de touristes, mais on est bien content de prendre un peu plus d'argent, surtout parce qu'en réalité, c'est pas très dissuasif. Après, si vous affichez un objectif qui est la préservation, par exemple, du site archéologique, de l'environnement, etc., là, la meilleure méthode, c'est quand même les quotas, c'est ce qu'on a vu dans les calanques.
C'est ce qu'on fait les calanques.
Voilà. Et puis après, il y a tous les nouveaux systèmes, c'est ce qu'expliquait très bien notre invité, où avec tous les nouveaux outils digitaux, vous avez quand même les moyens de lisser les flux sur l'année, de dissuader les gens de venir à certaines périodes pour venir à des périodes plus creuses.
Sur les visites notamment simultanées, c'est le cas par exemple d'une île qui est au large de Natal au Brésil, oui j'en reparle, et qui depuis des dizaines d'années...
C'est l'exemple.
Voilà.
C'est-à-dire le Brésil, c'est à toutes les...
Voilà.
C'est ça qui est bien avec Amélie.
Fernando de Noronha, qui a une archipel de 3000 habitants, la jauge c'est 500 visiteurs en même temps, simultanément, et ça depuis des années.
Et si vous êtes le 501e,
ça fonctionne hyper bien.
Nelson est avec nous au 3216, bonjour Nelson.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous êtes chauffeur de Chilly-Mazarin dans l'Essonne, mais peut-être sur la route d'ailleurs, là, à 6h44.
Non, je suis en pause.
En pause? Tranquille, dans quel coin?
Vers Bastille.
Vers Bastille. Ah, vous êtes rentré dans Paris. Il est à Bastille. Il est en train de prendre la Bastille, Nelson, et il prend l'antenne sur AMC. Nelson, est-ce que c'est 5 euros à Venise? Ça vous choque? Est-ce que ça pourrait même vous décourager?
Ça pourrait me dissuader avec une autre destination. En fait, ce que je disais, c'est que ce que je pense, c'est par exemple, moi je suis parti en vacances là au mois de mars.
Ouais.
Déjà, réserver des vacances, c'est un budget à calculer. Même quand on va sur une plateforme de recherche, ils affichent un prix, mais après le prix, en fonction des bagages, de l'heure de l'avion, de l'hôtel, des jours, il varie.
Vous partiez où?
Je suis parti aux Canaries.
Ok.
Voilà. Donc déjà, c'est un calcul à faire au niveau du budget. Alors de là, on me demande, par exemple, si je vais à Venise une semaine, 5 euros par jour. Non, alors c'est pas les 5 euros, parce que quand on est en vacances, on dépasse le budget. Par exemple, quelqu'un il va fixer 1000 euros de budget, il va peut-être dépenser 1100 ou 1200
euros. Oui, on sait avant de partir qu'on va déborder.
C'est pas l'histoire des 5 euros, c'est plus le principe de, comme disait le monsieur juste avant, c'est voilà, c'est aujourd'hui c'est 5 euros. C'est pas pour filtrer les accès, c'est pour créer un enrichissement pour prendre de l'argent tout simplement. Parce que là, en 2024,
et ça pourrait,
c'est 5
et vous pourriez vous dire, bon bah dans ces cas-là, s'ils veulent pas de moi, je vais ailleurs quoi.
Ah complètement. Déjà Venise, pour moi, c'est pas la destination qui est dans le top de mes futures recherches. Mmh. Ouais non bah là non. Vous, ça me donne pas envie.
Vous envisagez où là, Nelson?
Mexique, mais bon, pas pour tout de suite, je rentre de vacances.
si vous rentrez de vacances et que c'était les Canaries, vous avez dû avoir un peu de soleil, vous avez fait le plein là, c'est bon.
Ouais, justement, c'est ce que je disais, c'est que déjà les vacances, c'est bien, c'est positif, on n'est pas, une fois qu'on part, voilà, on part, on lâche des sous, donc...
Après, sur le fond, c'est-à-dire s'il y a trop de touristes quelque part où vous allez en vacances, ça va pas être des bonnes vacances. Donc dans un sens, c'est un signal qu'on vous envoie de vous dire, bon...
Mais les gens le savent, hein. C'est pour ça que les gens ils partent hors vacances scolaires s'ils veulent du calme. C'est sûr. Je veux vous prendre une destination où j'ai déjà été à Ibiza.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, j'ai été au mois de juin.
Ouais.
Vous y allez en juin, juillet, août, voire septembre, voilà, c'est le feu. Vous voulez aller à Ibiza dans une période calme, vous y allez au mois d'avril, mai.
Voilà.
Tout dépend, tout dépend de votre objectif. C'est-à-dire que je ne sais pas quel âge vous aviez, mais c'était peut-être un âge où vous étiez content qu'il y ait du monde.
En fait, le vrai problème.
C'est ça, j'ai bien compris, en fait, j'ai bien compris, Nelson.
Le sujet, c'est qu'en fait, le tourisme mondial se concentre en fait énormément sur une cinquantaine de sites qui sont les sites que le monde entier a envie de voir, qui sont des sites exceptionnels.
Pour faire des
c'est le Machu Picchu, c'est le temple d'Angkor, c'est l'Alhambra de Grenade, etc. Ouais. Et là, il y a rien à faire, quoi. Il faut absolument réguler l'accès.
Oui, parce que le
après,
lieu...
sinon, dans les, vous pouvez parce aller en vacances dans les stations réservé. Balnéaires, mais tout est fait pour. Les infrastructures hôtelières sont faites en conséquence. Le nombre de boîtes de nuit, etc. Voilà.
Samir qui vient rejoindre Nelson. Bonjour Samir.
Ouais, bonjour Apolline, ça va?
Ça va et vous?
Ouais, déjà, merci d'être revenu, parce que là, le matin, on galérait, quoi. Je me disais, mais Apolline, elle a prolongé ses vacances.
Ravie de la retrouver aussi.
Bah, Apolline n'a pas pris de vacances, hein. D'abord, je vais vous dire, il y avait aussi de la formation. Enfin bon, il y avait plein de trucs. Bah, je veux pas revenir dans les détails.
Le matin, on voit pas Apolline, on se dit, non, mais attends, et même ma femme, elle a dit,
ouais.
Apolline,
non, mais là, elle est hyper formée, là, Samir.
Vous vous êtes recouché, du coup. Samir, vous avez pas été bossé. Ouais. Vous avez dit, attendez,
non,
si elle est pas là, j'y vais.
Je me disais, je vais pas regarder Apolline direct le matin, l'interview. Bon, allez, on passe ça, quoi. On se pas ailleurs, quoi.
Je suis là, je vous lâche plus, c'est promis. C'est promis, Samir. Bon, ouais. Samir, du coup, est-ce que vous partez en vacances ou pas? Et est-ce que Venise à 5 euros, ça vous décourage?
Non, moi, je pars pas. Je pars souvent en vacances. Et je l'ai vu quand je suis parti en Thaïlande, là au niveau, ils ont fait la plage, enfin le film La plage.
Ouais, ouais.
Ils ont régulé, en fait. Il y a un certain nombre de personnes qui pouvaient y aller par jour.
Mm.
Et bah, mais c'est comme l'intervenant, ou je sais plus qui c'est qui parlait juste avant moi. Mm. C'est vrai qu'il faut réguler, parce qu'il y a un moment donné, c'est qu'on va... On va bousiller ces sites, en fait, comme Venise, où les gens vont là-bas. Aujourd'hui, c'est malheureux. Ils vont là-bas pour faire une photo Instagram, ils s'en vont, quoi. Donc,
Non. Et puis, c'est vrai qu'il y a des lieux. Enfin, Venise est fragile. On sent quand on va à Venise la fragilité du lieu. D'ailleurs, moi, en fait, c'est pas tellement les 5 euros. Ce que j'avais trouvé délirant, c'était ces histoires de bateaux. Mmh. On voyait ces images de gigantesques bateaux de croisière.
Énormes.
Plus grands que Venise. On pouvait mettre tout Venise dans le bateau qui passait au large. Ça, pour le coup, c'est fini. On est d'accord, Nico?
Ah oui, heureusement.
Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a. Et d'ailleurs, on voit les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Story. C'était impressionnant. C'est-à-dire que le bateau engloutissait quasiment la ville de Venise. Donc il y a la question écologique, il y a la question de la préservation du lieu, et puis il y a la question du monde. Samir, quand vous étiez en Thaïlande, est-ce que vous avez souffert de certains endroits où il y avait trop de monde?
Oui. On a souffert, mais heureusement qu'à ce moment, au même moment où je suis parti. Il régulait et en fait fallait payer une taxe pour pouvoir accoster sur une des plages et de toute façon c'est ce qu'il faut faire, hein. Il y a un moment donné si on fait pas ça, imaginez-vous tous les touristes qui montent sur la Tour Eiffel, mais il y a un moment donné on a même
bien
une Tour Eiffel, quoi. Enfin,
bien
c'est...
sûr, bien sûr, voilà, il y a quoi. Certains coins d'ailleurs qui sont dont l'accès est facilement contrôlable. Je crois que l'île de Ré est un endroit où ils ont décidé de mettre un certain nombre de quotas sur le pont, quoi.
Exactement, il y a de plus en plus de zones, hein, comme ça en France. Et ce que disait notre invité tout à l'heure à 6h10, c'est aussi, avec ce genre de quotas, ça permet à des touristes de se détourner des lieux ultra fréquentés pour aller vers d'autres lieux qui sont tout aussi beaux, qui sont moins fréquentés, et ça permet donc de lisser un peu le tourisme un peu partout dans différents lieux.
Et on continue à en débattre tous ensemble. Merci Nelson et Samir, promis, vous pouvez le dire aussi à votre femme, je suis là, et je suis très réveillée, je suis avec vous, il est 6h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
Je vous raconte une histoire qui se passe à New York. Des serveurs de restaurants sont maintenant en télétravail.
C'est compliqué. Charles.
Je veux juste vous dire qu'on a plus de chances de réussir quand on s'appelle Bourdin ou de Malherbe que Poincaré ou Rosic.
Ah bon, alors là, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52 sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h et voici le programme de la suite de la matinale. À 7h10, pas d'équipe féminine, un croissant et une étoile sur le logo. Le club de foot de Sète est accusé de séparatisme et de communautarisme par le préfet. Plus aucune subvention, plus d'accès au terrain. L'avocat du club se défend sur RMC. Ce sera donc dans 20 minutes. 7h40, la réforme des retraites, c'est pour tout le monde sauf pour certains cheminots qui ont donc signé un accord pour partir plus tôt et être payé quand même, intolérable pour le sénateur LR Philippe Tabarot qui sera donc avec nous à 7h40 réagir à ce chantage au JO.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous
Nicolas Poincaré. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, C'est l'histoire de serveurs délocalisés, j'ai mal à croire.
Des serveurs qui sont donc en quelque sorte en télétravail. Alors on connaît tous ces call centers qui ont été délocalisés. Vous savez, vous appelez pour avoir des détails sur votre facture de téléphone mobile et vous ne comprenez rien à ce qu'on vous raconte parce que la personne qui vous parle est à l'île Maurice ou au Maroc. Alors on connaît ça par cœur, mais on pensait que des métiers étaient à l'abri de cette délocalisation. Par exemple, serveur de restaurant. Eh bien, détrompez-vous, c'est fini. On peut délocaliser ce métier à New York. Il y a désormais des restaurants. Vous êtes accueilli par un serveur qui en réalité se trouve aux Philippines.
Mais non, si. Comment ça marche?
Alors le serveur ou la serveuse est en ligne par Zoom, il accueille le client, il le renseigne sur la carte et puis il prend la commande est ensuite transmise à la cuisine et finalement eh bien, c'est un vrai serveur qui vient tout de même vous apporter votre plat
à table. Le cuisinier il est en présentiel ou...
Le cuisinier il est en présentiel aussi. Mais vous voyez bien que le travail le plus long dans un restaurant c'est la prise de commande et ben, ce travail là est donc fait maintenant par un Philippin. L'avantage était évident, le serveur qui est basé à New York a un salaire minimum de $16 de l'heure, alors qu'un Philippin se contente de $3 de l'heure.
Et pourquoi ils font pas juste la borne tablette, comme au McDo?
Ça
parce
existe.
Parce que ça, c'est, j'ai envie de dire.
Ça existe depuis longtemps, le robot, mais maintenant, on a le serveur délocalisé.
La borne
par
à l'entrée
Zoom.
Du McDo.
Qui peut-être la personne accompagne quand même un peu le client sur le menu
d'humain. Il peut renseigner.
Et on peut délocaliser le pourboire aussi ou...
Alors effectivement, il n'y a pas de pourboire. Ouais. Alors Benoît Ballet, qui est notre correspondant aux États-Unis, il en sort et je viens de lui en parler. Il est allé expérimenter le truc.
Alors...
Il m'a dit que ça lui rappelait les apéros Zoom, vous savez, du Covid. Mais à part ça, ça marche très bien.
Ça marche très bien. Il a testé, il a été servi.
Il était dans un petit restaurant où la seule personne qui parlait anglais, un restaurant asiatique, où les personne qui était là en présentiel ne parlait pas anglais, mais celle qui parle anglais, et ben c'était une Philippine qui était à Manille et qui lui a pris
sa commande
efficacement. Il a testé pour nous.
Et on le salue et qu'il embrasse évidemment les États-Unis pour nous.
Washington, non ouais. Vous n'auriez pas été correspondante,
Claude Martin.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Alors vous osez nous dire, Martin, ce matin, que nos initiales peuvent conditionner notre réussite dans la vie.
J'ai jamais été aussi heureux d'avoir un nom de famille qui commence par B, figurez-vous, parce que oui, ça aide d'avoir un nom de famille qui commence par l'une des premières lettres de l'alphabet. C'est ce que nous disent des chercheurs du Michigan aux États-Unis. Ils ont étudié les notes de 30 millions d'étudiants et quand ils sont notés dans l'ordre alphabétique, ces étudiants, ceux dont le nom commence par A, B, C ou D, sont mieux notés que ceux qui arrivent en fin d'alphabet. Différence qui disparaît quand les copies sont corrigées dans un ordre aléatoire. La raison, eh bien, elle est simple, c'est que plus les correcteurs progressent dans la correction, plus ils sont sévères. Voilà. Les 10 premières copies reçoivent même 3,5 points de plus sur 100 que celles qui arrivent en fin de pile. Alors c'est sur 100, mais bon,
ça fait quand même pas mal de points.
Donc je voudrais quand même qu'on rende ce matin un hommage à Nico et à Amélie qui partaient quand même avec un petit handicap.
Un gros handicap.
Deux manières, c'est le D.
Alors moi, c'est toujours une galère. Je sais pas dans quel case ils me mettent. À chaque fois, ils savent jamais. Je passe des heures à me chercher sur les listes. Je sais jamais si je suis à D. Ouais, mais enfin bon, écoutez, en tout cas, c'est vrai que donc désormais, je demanderai à être à D.
Voilà,
si j'ai bien compris, il vaut mieux.
Et finalement, avec Nicolas, on s'en est bien sorti dans la vie, du coup.
Comme quoi, il y a de l'espoir.
Et le chip, vous êtes au milieu à peu près?
Oui, moi je suis au milieu à peu près. Ouais, c'est neutre pour moi. Ça
6h56, on est ensemble jusqu'à 9h. Excellent réveil à tous dans Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.